Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Studio Tamani. Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry. Halou Dmandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Mesdames, messieurs, bienvenue au grand dialogue. Mercredi 9 novembre, nous allons parler de la menace terroriste et divers crimes transfrontaliers entre le Mali et le Niger. Une fluctuation de banditisme que l'on a du mal encore à contrôler. Les deux pays réfléchissent aux conditions pratiques de mise en œuvre de patrouilles mixtes. La porosité des frontières de nos pays exige des mises en synergie pour répondre aux menaces terroristes et autres crimes transfrontaliers. Est-ce qu'il existe un cadre d'échange entre le Mali et le Niger, mis à part le G5 bien sûr? La sécurité de l'un de nos pays influe-t-elle sur l'autre? Nos gouvernements ont-ils les moyens d'endiguer le phénomène? Comment renforcer la sécurité et la stabilité régionale sur ces questions liées au terrorisme? Pour nous éclairer sur ces questions avec nous sur ce plateau, Cheikh Amadou Diouara, journaliste indépendant, enfin il sera avec nous très bientôt. Maître Abderrahmane Touré, analyste et avocat, sera également avec nous. Brahima Touré, le professeur en sociologie à l'université de Bamako, il est sur ce plateau avec moi. Murtala Mahamadou, journaliste nigérien, il est du journal La Griffe, il sera en ligne avec nous. Je suis Ousmane Diadié Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Petingara.
Le grand dialogue.
La porosité des frontières de nos pays exige des mises en synergie pour répondre aux menaces terroristes et autres crimes transfrontaliers. Pour le Mali, la gestion des frontières constitue un des enjeux majeurs pour la sécurité nationale, mais aussi l'ensemble des pays du Sahel. La principale difficulté réside, on l'a dit, dans la porosité de nos frontières. À cela s'ajoute, dans le cas du Mali, l'immensité du territoire et l'étendue de la bande sahélo-saharienne, en plus de la longueur des frontières, soit près de 7000 km avec 7 États voisins. Le contrôle devient à Stéphane un véritable parcours du combattant. Professeur Touré, dites-moi, est-ce que c'est évident, c'est facile de contrôler des frontières avec 7 pays, près de 7000 km qu'on partage avec d'autres?
Vous l'avez déjà dit, c'est extrêmement difficile. Et c'est là, depuis dans les années 2010-2011, l'ancien président du Mali l'avait déjà évoqué. Il avait fait plusieurs tournées dans ce sens, on le voyait. Mais en son temps, soit il n'avait pas été bien écouté, ou bien on ne l'avait pas pris tellement au sérieux, mais aujourd'hui nous vivons une situation qui avait été déjà évoquée auparavant.
Merci beaucoup, Maître Touré. À présent, je m'adresse à Murtala Mahamadou, il est journaliste du Niger, du journal La Griffe plus exactement. Est-ce que c'est bien cela?
Oui, effectivement.
Merci donc de participer au grand dialogue du studio Tamani. Dites-moi, quelle est l'ampleur de l'insécurité sur la bande frontalière Mali-Niger aujourd'hui?
C'est vraiment l'ampleur est quelque chose qui de plus en plus est inquiétant parce que ça va en prenant beaucoup plus d'ampleur, comme vous l'avez dit. Donc c'est un problème autant qui inquiète les autorités maliennes et nigériennes, mais aussi et surtout les populations qui vivent dans ces zones-là. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, qui est véritablement réel. Donc, auquel, à mon avis, les autorités songent à trouver des solutions, mais jusque-là, des solutions qui ne portent pas de fruits.
Merci. Restez donc avec nous pour la suite de cette émission. Maître Brahima Touré, vous êtes professeur en sociologie à l'Université de Bamako. Est-ce qu'il existe un baromètre, justement, pour mesurer l'insécurité?
Au niveau de cette partie dont vous parlez, d'abord moi je trouve que ça va au-delà de ça, parce que nous faisons face à un phénomène qui est une sorte de, c'est comme une sorte de fumée. C'est-à-dire que c'est tellement difficile à le maîtriser. Ça va du Mali au Burkina, Niger, jusqu'à toute la bande sahélienne, pratiquement on peut le dire. Et nous avons un grand territoire avec des pays extrêmement pauvres, qui ont très peu de moyens pour pouvoir y faire face. Et ces différents groupes terroristes jouent sur ces différents plateaux. Et ils sont là aujourd'hui, demain peuvent être là, de l'autre côté, et ils connaissent, maîtrisent bien le terrain. Ce qui rend la situation extrêmement complexe.
Dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le risque zéro existe justement dans d'autres pays qui ne sont pas forcément des pays sahéliens? On parle notamment de la Côte d'Ivoire, par exemple.
Pas du tout. L'expérience nous l'a montré.
On a vu le cas de Grand Bassam.
Effectivement, il y a déjà quelques mois, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, vous l'avez vu. Au Burkina Faso, à longueur de journée, ils sont en train de veiller à cela. Mais cela n'empêche qu'il y a toujours des attaques un peu partout. Aucun pays à ce niveau n'est épargné. Mais par contre, il y a certains pays dont le cas nous amène encore à réfléchir beaucoup plus, comme le cas de la Mauritanie, par exemple.
D'accord, le cas de la Mauritanie, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire, toute la bande sahélienne, la plupart des pays se plaignent aujourd'hui de ces attaques, de ces terroristes, mais rarement le cas de la Mauritanie en fait cas. Pire encore, la plupart des déclarations et des diffusions, des messages de ces groupes terroristes, ça se fait à travers ces régions.
Allah Akbar, principalement, qui est une des sources d'information justement de revendication de ces attentats. Quels sont certains des indicateurs clés justement qui nous montrent aujourd'hui que ça ne va pas en termes sécuritaires sur la bande frontalière nigéro-malienne principalement?
Ok. Cela, on n'a pas besoin d'aller très loin, M. Touré. En fait, aujourd'hui, dans cette grande bande, les populations sont constamment déplacées. Il y a des réfugiés maliens en Niger, il y en a du Nigeria au Niger, ceux du Niger sont souvent au Nigeria, un peu partout. Il y a l'insécurité totale à ce niveau. Et ce qui pose encore plus de problèmes, c'est que la communauté internationale qui est présente là-bas, sa valeur ajoutée reste extrêmement faible.
Justement, on va reparler dans le deuxième volet de la valeur ajoutée justement de toute cette communauté internationale présente en partie au Mali et au Niger également avec cette nouvelle base allemande. Dites-moi, Murtala Mahamadou, est-ce que aujourd'hui on peut imputer justement, on peut parler d'insécurité classique qui date d'avant 2012 ou ce sont des facteurs terroristes uniquement?
Non, c'est vraiment une combinaison des deux. Il y a d'abord l'existence des mouvements qui sont des groupes de bandits à la quête de quelques gains que ce soit, auxquels est venu s'ajouter ces mouvements terroristes et donc qui sont en train d'essayer de sévir sur toute la zone d'ailleurs. Mais il faut distinguer, je crois, les deux mouvements, les deux types de mouvements. Il y en a qui se battent pour pouvoir obtenir des gains, pour ramasser, prendre des troupeaux, etc. Mais d'autres, par contre, qui ne sévissent que c'est pour la soif de tuer au nom d'un quelconque idéal religieux qui reste contestable.
Dites-moi aussi, on voit que le Niger a un peu pris un étau entre le Mali où il y a une partie qui reste toujours embrasée et le Nigeria.
Oui, le Niger est fortement mis à épreuve hein, parce que le Niger est sur tous les flancs entouré par des foyers de tension. Et donc, ce qui fait encore que la tâche pour le Niger est encore plus compliquée que pour les autres pays de la zone sahélienne, parce que le Niger fait face d'abord à des incursions dans sa partie sud par le Nigeria et de l'autre côté avec le Mali, mais aussi avec la frontière libyenne. Donc, de mon point de vue, le Niger est quelque part au centre de tout le foyer, de toute la tension qui se vit au Sahel. Donc, bien que tous les États soient concernés, je crois que c'est le pays qui est aujourd'hui le plus menacé parce qu'il ne sait de quel côté concentrer sa défense.
Brahima Touré, dites-moi, aujourd'hui, est-ce que c'est, on peut plus parler d'insécurité classique comme on le connaissait, hein, depuis bien avant la crise malienne en 2012, il y avait quand même une espèce d'insécurité avec des bandits armés dans cette zone frontalière malio-nigérienne. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des facteurs, il y a une évolution?
Une forte évolution. Moi, je le considère au cours de ces 5 dernières années, la dimension sécuritaire dans cette zone a fortement évolué. Ce n'est plus comme l'insécurité classique où c'est des querelles autour des points d'eau, autour des brigandages, autour des animaux, des petits bandits, mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, la zone est partagée. Il y a un combat féroce entre pas mal de groupes terroristes, parce que on met entre guillemets la question d'islamisation, ça n'a absolument rien à voir. À notre avis, dans mon analyse personnelle, moi je le vois comme une guerre pour le contrôle des routes.
Pour le contrôle des routes,
il y en a tout. Il y a des routes de trafic, il y a des routes de trafic de drogue, des cigarettes, des véhicules, des marchandises, de n'importe quoi. Et alors, autant ces différents groupes ne sont pas libres d'exercer leur activité, ils feront mal. Et la dimension actuelle qui est là-dedans, qui est inquiétante, c'est qu'ils n'achètent pas, ils ne vont pas aller acheter des armes ailleurs, mais ils cherchent à s'armer à travers même nos armées. Et c'est ce qui est très grave, comme ce qui se passe dans ces derniers temps. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à avoir des armes à travers d'autres pays ou bien au-delà des mers, non.
Non, il n'y a plus de trafic d'armes.
Justement,
dans la zone.
À partir de la dislocation de ce pays, la débandade de la Libye, et toutes les armes qui ont été dispersées un peu partout entre le Niger et le Mali, ainsi de suite au Burkina. Donc on profite pour récupérer des armes par rapport à ces armes-là. Et au-delà, ils essaient aussi d'attaquer nos checkpoints, nos différents camps militaires pour s'armer.
Alors comment expliquer donc que le Mali a été occupé, les deux tiers du territoire ont été occupés pendant un certain temps, hein, et par contre d'autres pays tels que le Niger ont échappé à cela.
Ok, ce phénomène, il y a une explication. Vous savez, cet territoire du Mali, là où, la partie qui avait été occupée à l'époque en 2012, d'abord c'est une partie qui est extrêmement difficile à contrôler. On peut mettre deux fois le nombre actuel de l'armée malienne, ils ne pourront pas les contrôler. Il faut avoir d'autres moyens vraiment beaucoup plus sophistiqués, ainsi de suite, et une armée qui est entraînée autrement que par le système classique. Nous ne sommes plus dans le système classique des armées où les armées vont se faire face. C'est une sorte de guérilla, une mobilité parfaite à tout moment, nuit et jour. Donc, il fallait soit se mettre dans leur esprit pour essayer de marcher comme dans leurs attitudes, et pour pouvoir comprendre et faire face à cette menace. Or, nous avons des armées qui n'étaient pas du tout préparées à cela.
D'accord, merci beaucoup. Voilà. Murtala Mahamadou, vous êtes journaliste nigérien. Dites-moi, au regard justement de toutes les informations qu'on a aujourd'hui, quel est le pays justement de la bande sahélo-saharienne qu'on peut dire sécurisé aujourd'hui? Qu'on peut dire sûr, on va dire.
Dans l'absolu, on peut pas nommer un pays de la zone sahélo-saharienne qu'on peut estimer être à l'abri de toutes ces menaces. Mais on peut peut-être, dans une moindre mesure, penser qu'il y a d'autres qui sont beaucoup plus fragiles que les autres, etc. Et donc, parmi les États qui sont, je pense, beaucoup plus fragiles, il faut citer le Niger, le Mali, dû aussi surtout à l'immensité de leur territoire et aussi à l'impraticabilité quasi absolue de l'essentiel de ces territoires. Et à cela, il faut ajouter peut-être les moyens quelque peu dérisoires dont disposent ces États pour faire face aux dépenses sécuritaires, mais aussi au fait que les armées nationales soient plus ou moins faibles. Donc, ces États sont, de mon point de vue, les plus fragiles, mais à côté, il faut peut-être estimer que un pays comme le Burkina peut se targuer d'être un peu plus mieux nanti, parce que la menace, de mon point de vue, n'est pas plus très présente sur cet État par rapport aux deux dont je viens d'évoquer tantôt.
Alors, que dire donc du cas de la Mauritanie, hein, qui est en plein sur cette bande sahélo-saharienne, mais qui connaît très peu de soubresauts sécuritaires?
Oui, la Mauritanie, bien sûr, mais le cas de la Mauritanie, il reste un cas qu'il faut analyser peut-être avec d'autres lunettes, d'autres façons de regarder les choses. Parce que la Mauritanie, bien que ce soit un État relativement fragile, mais qui jusque-là est quelque peu épargné par ses attaques. Donc, à ce niveau, je crois qu'il faut mettre ça surtout à l'actif des forces armées mauritaniennes qui sont quelque part, qui maîtrisent quelque peu mieux le terrain que les armées nigériennes et maliennes. Donc, cette maîtrise du terrain et cette mobilité dont vient d'évoquer tantôt maître, donc c'est peut-être cela qui a joué quelque peu à la faveur de la stabilité ou bien de la relative stabilité de l'État mauritanien.
Merci beaucoup. Quelques secondes de pause, nous reviendrons continuer cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Merci de rester connecté au studio Tamani. Vous suivez le Grand Dialogue qui parle de l'insécurité sur la bande frontalière Mali-Niger. Sont avec moi sur ce plateau Murtala Mahamadou, journaliste nigérien. Il intervient au téléphone. Brima Touré, il est professeur en sociologie à l'université de Bamako. Merci messieurs. Brima Touré, dites-moi, aujourd'hui on a vu l'opération Barkhane, hein, qui était une opération, pas Barkhane, mais Barkhane, qui était une opération conjointe entre les forces mauritaniennes, les forces maliennes et l'opération Barkhane. Cannes pour essayer justement de sécuriser la bande frontalière Mali-Mauritanie. Et on a vu qu'elle a donné des résultats. Est-ce que on ne peut pas avoir un cadre de collaboration de ce genre, justement, hors justement du système G5 avec le Niger?
Cela est possible, mais ce qui a eu lieu à ce niveau me paraît un peu faible comparativement à toute la bande sahélo-sahélienne. Vous partez de l'opération dans la forêt de Ouagadou.
Non, l'opération Burkane qui s'est déroulée à Tombouctou il y a encore une semaine.
C'était une opération conjointe avec
les forces armées mauritaniennes, les FAMA, les forces armées maliennes, donc, et l'opération Barkhane.
Effectivement, ces genres d'initiatives sont vraiment salutaires. Il y a eu des résultats assez probants que nous saluons d'ailleurs de passage, mais cela dit, ça doit être multiplié à notre avis. C'est-à-dire que c'est limité seulement entre la Mauritanie, le Mali et la force Barkhane. Bon, c'est insuffisant par rapport à tout ce qui se passe. Puisque, vous savez, ces éléments sont extrêmement informés. Comparativement à ce que les gens
justement,
pensent. Que...
Est-ce qu'il faut transposer ce modèle-là justement dans le cas du Mali et du Niger?
Pas de la transposer, d'élargir à mon avis. D'élargir me paraît être l'approche la plus bénéfique. Quoi. Au lieu de Mauritanie-Mali, mais ça serait de Mauritanie-Mali-Niger et y compris Burkina. Donc en ce moment, ça pourrait vraiment porter beaucoup plus de fruits, à mon avis.
Merci. Murtala Mohamadou, vous êtes journaliste du Niger. On a vu le 17 octobre dernier qu'il y a eu une attaque sur la prison de Koutoukale, qui était quand même considérée comme l'une des prisons les plus sûres. Au-delà de ça, il y a eu l'enlèvement de cet Américain, Jeffrey, son nom m'échappe quelque peu. Et comment cela arrive qui est une telle fluctuation, justement, avec une très forte présence militaire au Mali et au Niger, qu'on arrive à transposer ou à attaquer un coin au Niger et qu'on disparaisse au Mali, par exemple?
Écoutez, en fait, je ne pense pas que, contrairement à une certaine opinion, que toutes les attaques dont fait l'objet le Niger dans cette partie, que les assaillants viennent systématiquement du Mali. Non, bien au contraire. De mon point de vue, il y a quand même des complicités au sein des populations, parce que il faut le dire, tous ces mouvements ont trouvé des terreaux qui leur sont quelque peu favorables, la pauvreté, c'est tout ce qui va avec. Donc, c'est aussi une zone que je disais tantôt, qui a été connue par le passé pour une présence de certains groupes qui s'adonnent à des razzias, des part et d'autre des frontières. Donc, ils utilisent les frontières comme une sorte de d'arrière-base. Donc, ce n'est pas automatiquement du Mali que viennent forcément ces assaillants, non. De mon point de vue, on peut attaquer la prison de Koutoukale qui est à quelques kilomètres de la ville de Niamey. Et donc, pour trouver une arrière-base, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au Mali parce que, bien que la frontière ne soit pas très loin, mais ce sont des groupes qui trouvent des refuges au niveau des localités parce que ce sont quand même généralement des jeunes de ces localités et qui ont été embrigadés parce qu'ils sont assez relativement fragiles, donc qui ont été embrigadés et qui se retrouvent dans ces groupes armés. Et la collaboration de la population ne suivant pas, et on se retrouve à accuser à tort ou à raison la partie du Mali et pour dire qu'ils viennent de là, et sans pour autant qu'on cherche véritablement à essayer à les identifier au niveau du territoire national nigérien.
Merci. On a vu également le 30 octobre 2014 qu'un groupe armé avait attaqué la prison de Walam à 100 km au nord de Niamey et libéré plusieurs détenus.
Oui, et aussi l'attaque de la prison civile de Niamey, en plein cœur de la ville de Niamey.
En 2013, justement, la prison civile de Niamey qui avait été prise pour cible par un commando armé. Justement, est-ce que toutes ces attaques... Merci beaucoup. Dites-moi, professeur Touré, quels sont certains des facteurs, justement, d'embrigadement de ces jeunes?
Il y a le facteur du chômage et de la pauvreté. Et ça, c'est le facteur déterminant. Autant que les jeunes sont si pauvres, il n'y a pas d'emploi, il n'y a absolument rien. Il y a une sorte de lassitude, je ne sais pas, c'est difficile à expliquer, qui fait que très facilement, ils tombent dans la main de ces terroristes. Certains sont utilisés comme des chauffeurs, certains sont utilisés comme des combattants, un peu partout. La pauvreté est un élément fondamental parce qu'il y a un manque d'emploi là-bas. Sur toute la banque, pratiquement, il y a très peu de projets. très peu d'actions de développement, il y a très peu d'usines. Par conséquent, les gens qui sont là, ben, alors si on a rien à faire, quand la première occasion qui se présente, on en profite.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, dans nos pays, il y a des dispositions spéciales justement pour empêcher les gens ou pour même sensibiliser les gens à ne pas aller vers justement le terrorisme?
Ça, c'est le devoir des politiques. C'est le devoir des politiques, c'est aux politiques de travailler dans ce sens, de faire des planifications dans ce sens et d'essayer d'investir beaucoup plus dans ce sens. Vous savez, si vous voyez un peu l'exemple du Mali, par exemple, de Douanza jusqu'à Gao, en passant jusqu'au Niger, il y a certaines localités, souvent, les gens y passent des jours et des jours, il n'y a pratiquement rien à faire. On ne fait que prendre du thé, manger de la viande, et quand on devient pauvre, on cherche rapidement à se faire de l'argent, et après ça passe. Et tous les moyens sont bons pour se faire de l'argent. Et parce qu'il n'y a pas d'activité là-bas, pratiquement. Merci. Alors, il faut impulser le développement de la manière qu'il faut pour les occuper davantage et faire en sorte que les gens puissent vraiment avoir d'autres occupations avec des moyens financiers pour avoir de quoi vivre.
Merci. Murtala Mohamadou du Niger, dites-moi, est-ce qu'il y a des dispositions spéciales justement au Niger, par exemple, pour empêcher cette radicalisation de la jeunesse ou même que la jeunesse ait un penchant justement vers le banditisme armé?
Non, pour l'instant, il y a quand même quelques petits projets de développement de moins envergure qui essaient de faire le boulot. Mais au niveau national, c'est, je crois, comme le disait tantôt l'intervenant, c'est aux politiques d'impulser la dynamique. C'est quand même des zones dans lesquelles les activités économiques sont relativement quasiment inexistantes. L'élevage, c'est qui est objet des razzias. Donc, il y a toute cette pauvreté rampante ambiante qui fait que et ces jeunes n'ont d'autres alternatives que de répondre aux sirènes de ces groupes qui leur montrent des attraits, des gains mirobolants parfois. Et donc, l'oisivité aidant, ces jeunes tombent facilement dans ce travers parce que à côté, d'autres alternatives ne se présentent pas, elles ne s'offrent pas à eux.
Merci. Professeur Touré, dites-moi, quelles peuvent être justement les conditions pratiques de la mise en œuvre d'une patrouille mixte entre nos deux pays?
Ça, c'est la confiance mutuelle, le renforcement de la communication et de la collaboration. Et tant que les différents pays ne collaborent pas jusqu'à un certain niveau, ça va être extrêmement difficile. Est-ce qu'ils se font confiance?
Est-ce qu'il y a une franche collaboration entre nos États déjà, selon vous?
Bon, c'est toute la question. Vous savez, il y a aussi les relations géopolitiques qu'il faut voir. Au-delà de tout ça, il y a d'autres intérêts en dessous de tout cela. C'est pourquoi je parle d'une franche collaboration entre les États. Est-ce que cela y est? C'est toute la question. Puisque dans un premier temps, le Mali avait impulsé cette volonté de coopération, mais ça n'a pas tellement marché. Après, quand le problème est arrivé, on avait pensé au départ que le problème concernait le Mali, mais de nos jours, c'est l'ensemble des pays qui sont concernés. Plus qu'hier, aujourd'hui, la nécessité se pose que les hommes d'État se regardent en face et se disent certaines vérités, puisque les populations en ont beaucoup souffert. Et il faut que les États collaborent, on n'a pas le choix. Mais toute la question est que, et la communauté internationale qui est présente là-bas, qu'est-ce que cela a pu faire dans ce sens? Moi, c'est la question fondamentale que je me pose aujourd'hui.
D'accord, merci beaucoup. Et dites-moi, aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin d'un quelconque roi juridique, justement, avec cette insécurité chronique dans toute cette zone-là? Est-ce qu'on a forcément besoin de roi juridique entre nos deux pays pour pouvoir collaborer? Est-ce qu'on ne peut pas, justement, impulser quelque chose d'assez rapide pour sécuriser nos frontières?
Là, je suis parfaitement d'accord avec vous, parce que l'arsenal juridique, souvent, c'est extrêmement lent et très lourd. Mais il y a déjà la volonté. Les différentes communautés qui sont là-bas, ce sont des communautés déjà qui se connaissent depuis un certain moment. Donc, collaborer ensemble, ce n'est pas tellement un problème. Et ils peuvent aller dans ce sens, puisque ce sont les États qui sont beaucoup plus en retard par rapport aux communautés. Et c'est ce que nos États, nos politiques doivent comprendre. Ils sont extrêmement en retard, très lourds. Et c'est ce qui fait que souvent, ce qui donne beaucoup plus de marge de manœuvre à l'ennemi, d'évoluer et aussi de faire beaucoup plus de mal. Il faut y aller. Pour le cas du Mali, il faut voir aujourd'hui, une des parties qui a fait que la sécurité a un peu diminué dans certaines localités, c'est parce que les communautés locales se sont levées. Ils ont commencé à collaborer et il faut qu'on aille vers ça. Mais aussi, souvent, je repose la même question encore. La question de la communauté internationale qui se pose là-dedans est une question fondamentale auquel il faut
vraiment tout. C'est une question à laquelle je vais en venir. Voilà. Tout à l'heure, le temps de faire réagir Murtala Mohamadou, journaliste du Niger. Murtala, dites-nous, est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche justement nos deux pays de collaborer plus étroitement afin de surveiller nos différentes frontières et sécuriser nos populations?
Nos États n'arrivent pas jusque-là à mettre en place un système de collaboration pour sécuriser cette partie qui est endeuillée par ces attaques incessantes depuis quelque temps, depuis plusieurs années d'ailleurs, mais c'est parce que de mon point de vue, au niveau politique, on n'a pas pris toute la mesure de l'importance de cette collaboration. On se cantonne à des solutions qui sont unilatérales, d'une part le Niger qui fait des efforts dans sa partie et de l'autre côté le Mali qui essaie de faire des efforts également, mais cela de mon point de vue ne suffira pas et il faut qu'on aille vers la mutualisation des efforts parce que c'est quand même une frontière sur laquelle aucun des deux États n'a un contrôle absolu parce que c'est assez pour eux, les populations vont et viennent comme veulent. Donc c'est plutôt une mutualisation des efforts des patrouilles mixtes à l'image de peut-être ce qui se fait avec le Mali et la Mauritanie. Mais également à l'image de ce qui se fait entre le Niger et le Nigeria de l'autre côté. Donc c'est un modèle qui existe déjà, qui a été expérimenté par ces États et qu'on peut mettre en place, mais la volonté et l'orientation politique n'a pas encore été donnée dans ce sens et c'est ce qui fait défaut, c'est ce qui freine cette initiative de mon point de vue.
Alors on a vu la création d'une nouvelle base allemande au Niger, on a vu que les troupes nigériennes font partie des soldats de la paix des Nations Unies. Comment expliquer avec toute cette forte présence militaire sur nos deux sols qu'on n'arrive toujours pas à sécuriser nos frontières? On sait qu'il y a une forte base des Nations Unies à Gao qui est à peine à 400 km de Niamey. On sait qu'il y a la force Barkhane qui existe dans les deux pays. Comment est-ce qu'on n'arrive toujours pas? Comment expliquer encore qu'on n'arrive toujours pas avec toute cette forte présence militaire? Quelle est la plus-value justement de cette communauté internationale présente aujourd'hui?
La plus-value de ces forces étrangères qui sont là, c'est quand même la question que tout le monde se pose. On s'interroge sur l'apport effectif de ces forces armées, et parce que avant leur arrivée, nos États étaient sujets à ces attaques incessantes, et avec leur présence également, nos États restent encore assez fragiles et sujets toujours à ces attaques. Donc on se pose logiquement la question de savoir quel est leur véritable apport. Et quant à la présence des soldats des Nations Unies à Gao et qui n'arrivent toujours pas à endiguer ce problème, de mon point de vue, il faut voir une chose sous l'angle de l'absence de contrôle sur la frontière. La frontière, elle est quand même assez vaste et il n'y a pas véritablement un contrôle sur la frontière, mais il y a des forces armées qui sont cantonnées de part et d'autre à des points, mais qui n'ont pas un contrôle effectif surtout sur le long de cette frontière. Ce qui fait que entre deux points, deux bases ou deux postes avancés des forces armées nigériennes ou maliennes, ces bandits armés, ces groupes terroristes peuvent faire des incursions et passer inaperçus parce que c'est quand même des gens qui se confondent à la population et des part et d'autre de cette frontière, les populations vont et viennent, et viennent débarquer hebdomadaire, etc. Donc, pourvu qu'on puisse associer véritablement les populations pour qu'elles puissent collaborer, et on pourrait peut-être freiner cette frénésie d'attaque, mais tant que les populations n'auront pas été associées, et tant que les forces armées nationales et étrangères n'inspirent pas confiance à ces populations pour qu'elles dévoilent, qu'elles dénoncent les individus suspects à leur sein, le chemin restera encore long pour la stabilisation de cette zone.
Merci. Donc, quelques secondes de pause, nous reviendrons pour poser une question à Paul Ben, qui est un journaliste malien qui vient de se joindre au téléphone à ce plateau.
Action.
Un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani.
Merci de rester connecté au Grand Dialogue du studio Tamané. Nous parlons de l'insécurité sur la bande frontalière entre le Mali et le Niger. Sont avec nous sur ce plateau Paul Ben, donc, qui vient de se joindre à nous. Paul Ben est journaliste malien. Paul Ben, est-ce que vous me recevez? D'accord, on va directement justement vous poser cette question. Quelle est votre analyse de la situation? On n'arrive toujours pas à sécuriser justement cette bande frontalière entre le Mali et le Niger. Il y a énormément de fluctuations de combattants armés, de bandits armés, de terroristes dans cette zone-là qui attaquent de part et d'autre dans les deux pays.
Bonsoir aux auditeurs de Studio Tamani. Je crois que si vous connaissez un peu la zone, c'est très difficile de sécuriser cet endroit qui se trouve entre le Mali et le Niger. Parce que, vous savez, nos deux pays ont des problèmes, non seulement d'effectifs, mais de stratégie aussi. Je connais très bien la région de Menaka, qui est frontalière à cette zone. Et généralement, les incursions qui se font au Niger viennent du Mali. Et le repli se fait sur notre territoire, parce que nous avons un des cercles qui est vraiment terreau de ce qu'on peut appeler le reste des terroristes du Moujao qui s'y sont retranchés, notamment dans la zone de Chinanan et Ifaritane. C'est de là-bas que partent les incursions. Mais c'est très difficile. Menaka est devenue une nouvelle région. Il a donné l'air depuis longtemps. Menaka souffre d'un problème d'effectif. Si on doit envoyer l'armée malienne travailler avec l'armée nigérienne, il faut vraiment un effectif. Or, au moment où nous débattons sur ce sujet, je ne vois pas d'effectif assez costaud. Le Niger en a autant. Ils ont aussi des problèmes d'effectif. Donc c'est très très difficile qu'on sécurise cette zone. Moi, j'entendais tout à l'heure les différents intervenants parler des forces internationales. Vous savez, Barkhane, je l'ai toujours dit, Barkhane s'étend sur 5 pays. C'est très très difficile de venir seulement gérer ce problème frontalier entre le Mali et le Niger. Et Barkhane a d'autres priorités. Bon, maintenant, quand il fait...
Un peu plus de 3000 hommes avec des moyens conséquents pour ces 5 pays, c'est quand même assez lourd.
C'est très peu. Ils sont étendus sur 5 pays qui sont très, très vastes. Chaque pays n'a pas moins de 800 à 900 000 km². Et c'est très difficile. C'est des pays qui sont confrontés à des problèmes de terrorisme. Et c'est très, très difficile. Je connais ces différents pays. Et moi, je sais que vraiment, c'est très difficile. Il faut plus de moyens. Maintenant, par rapport à la force onusienne, vous dites qu'elle est basée à Gaouya. Il y a un contingent nigérien qui est à Menaka, qui est à quoi, 120 km de la frontière. Mais tout le monde le sait, la force onusienne n'est pas venue au Mali pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre les bandits armés. Donc, vraiment, de ce côté, il faut mettre l'AMUNISMA ou les Nations Unies de côté. Maintenant, les Allemands qui sont venus, qui sont de part et d'autre, c'est-à-dire à Gao et puis à Niamey, ils sont rentrés dans la grande famille des Nations Unies. Et moi, je ne vois pas comment est-ce qu'ils vont venir sécuriser, parce qu'au Mali...
Merkel, lors de sa visite au Niger, spécifiquement, a parlé de l'implantation d'une nouvelle base allemande.
Oui, la base allemande, si, elle sera implantée à Niamey, ça ce sera pour la logistique, c'est pour ravitailler un peu le contingent de 650 soldats allemands qui se trouve à Gao. Mais ce n'est pas pour lutter contre le terrorisme. Donc moi je ne vois pas, ce sera très difficile, c'est très très difficile. Moi je connais très bien la zone, je connais les deux côtés de part et d'autre de la frontière maliano-nigérienne. Et je vous assure que il faut vraiment des moyens conséquents. Il faut la volonté politique des forces étrangères, surtout de Barkhane, parce que c'est Barkhane qui a vraiment les moyens et qui est engagé pour cela. Et c'est Barkhane qui dit qu'il lutte contre le terrorisme. Par exemple, dans la zone d'Ifaritane, dont je vous parle, à la frontière, on sait très bien que c'est là-bas où les terroristes sont réfugiés. C'est de là-bas qu'ils mènent les actions. Mais Barkhane a fait une visite de quelques jours à Menaka. On les a vus. Ils ont fait une ou deux patrouilles avec l'armée malienne. mais ils ne sont pas arrivés dans la zone. On leur a expliqué que c'est là-bas qu'ils sont, mais bon, Barkhane, avec les moyens qu'ils ont, ils ont d'autres priorités.
Mais Paul Ben, restez donc avec nous, le temps de faire réagir Brima Touré, sociologue, qui attendait beaucoup cette question-là, justement, de la forte présence de soldats étrangers sur le sol malien, mais aussi sur le sol nigérien.
Bon, sur ce point, moi, s'il faut noter vraiment l'action de cette force Barkhane internationale avec les Nations Unies, je ne pourrais que leur donner vraiment...
Paul Ben l'a spécifié, les Nations Unies l'ont dit moult fois, ils n'ont pas mandat pour combattre le terrorisme.
On le sait, mais ils ont quand même mandat pour protéger la population. C'est ce qu'ils n'arrivent même pas à le faire sur le terrain. Sur le papier, peut-être qu'ils ont tout l'arsenal juridique et ainsi de suite pour protéger la population. Mais aujourd'hui, est-ce que l'aménagement est en mesure de protéger la population? Est-ce que c'est ce qu'ils sont en train de faire? Aujourd'hui, tout porte à croire que par rapport à ce qui se passe sur le terrain, l'aménagement se protège elle-même. L'aménagement a même du mal à se déplacer. Et la stratégie de ces groupes, c'est pour montrer à la population que, voilà, vous pensez que
ils peuvent vous sauver. Justement, en parlant un peu de la population, la population est sujette à beaucoup de menaces, justement, de la part de ces groupes, que ce soit des bandits armés ou des terroristes, mais elle est sujette à énormément de menaces. Il y a des civils qui se font tuer parce qu'ils ont parfois dénoncé. Comment arriver à gérer ça?
Bien sûr. Aujourd'hui, nous avons même deux ou trois étudiants qui travaillent dessus. Sur cette question-là, quelle est la perception de la population aujourd'hui vis-à-vis de l'aménagement? Aujourd'hui, l'aménagement se protège d'abord elle-même. Elle n'a pas le choix. Aucune de ses actions ne nous montre sur le terrain qu'elle est là en train de protéger la population.
Est-ce que c'est un problème de moyens?
Non, ce n'est pas un problème de moyens. Peut-être que c'est un problème de mandat, le soi-disant mandat. Qu'ils n'ont pas mandat pour lutter contre le terrorisme, mais au moins ils ont mandat pour protéger la population. Est-ce que ça, cela se fait sur le terrain? Toute la question est là. En tout cas, par rapport à nos observations, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est pourquoi moi, je pose vraiment des réelles questions par rapport à ça. Si nous prenons le cas de la Barkhane, ce n'est pas avec des petites opérations de façade et de publicité, souvent des petites sorties avec l'armée malienne.
Il y a eu des moments où Barkhane a eu des résultats concrets sur le terrain.
Au début. Mais 6 mois après, on ne sait pas ce qui se passe. Aujourd'hui, avec cet arsenal et tout le matériel qui est au nord, la question qu'on se pose est que qu'est fait Barkhane concrètement là-bas?
Merci beaucoup. À présent, je m'adresse à Mohamed Murtala. Mohamed Murtala, dites-moi, comment est-ce que nos États peuvent créer des conditions permettant justement aux responsables des unités frontalières de sécuriser, de communiquer entre eux, de faciliter des échanges d'informations sur les activités de banditisme et de criminalité tout le long de la frontière?
Les communications entre les différentes forces armées, c'est relativement plus facile à mon avis, parce qu'il faudrait bien juste que les États prennent à chacun son niveau la décision de mettre en concert les différentes forces et pour qu'elles puissent constituer une sorte de patrouille mixte de part et d'autre. Mais le véritable problème, ce serait d'amener les populations à collaborer, quelle que soit la présence militaire, je dis, et qu'il y aura autour au niveau de cette frontière, tant que les populations n'accepteront pas de collaborer, et on aura du mal à atteindre les résultats. Et pour que les populations collaborent, il faut aussi que ces différentes forces puissent assurer la sécurité de ces populations. Parce que quand il y a un village qui dénonce un groupe armé, il est sujet à des représailles par la suite. Donc vous voyez qu'il y aura que d'autres villages, d'autres localités auront du mal à leur emboîter le pas. Donc il faut d'abord que les forces armées puissent créer la confiance vis-à-vis de la population pour que ces populations puissent mettre à leur disposition des informations dont eux, ils ont en leur possession pour qu'ils puissent les échanger et opérer. Et de l'autre côté, quand on parle des forces de la mission des Nations Unies, elle n'a pas pour mandat de combattre le terrorisme, c'est ce que j'ai toujours décrit, je dis, pourquoi parler de protection de la population? De quoi est menacée cette population dans cette zone aujourd'hui? Ce qui menace cette population, ce sont ces différents groupes terroristes. Et si on n'a pas mandat de les combattre, alors de quoi protège-t-on ces populations? C'est la question que moi je me pose et à tout point de vue, je ne trouve pas de réponse. Si on ne peut pas les combattre, combattre les groupes terroristes dans cette zone, c'est qu'on ne peut protéger les populations parce que ce sont ces groupes qui constituent des véritables menaces sur ces populations.
Merci beaucoup, Mokhtala. Paul Ben, vous êtes journaliste malien, correspondant de plusieurs médias allemands. Dites-moi, que doit faire justement cette population pour aider quand on sait qu'elle est sujette à des menaces et qu'elle est à risque si elle dénonce ces groupes-là?
Et bon, écoutez, la population fait de son mieux. Hein. Moi, je suis à 90% de mon temps, je suis dans les zones de conflit, c'est-à-dire du Mali, et même au-delà. Et je sais que les populations font beaucoup de leur mieux. Le problème, c'est que leur sécurisation pose vraiment problème. Moi, je me rappelle, il y a quelques mois, à Menaka, pour la recherche de des objets volés par ces terroristes, ces bandits armés. Il y a deux gendarmes qui ont perdu la vie, et on a séquestré deux personnes, on a tué trois autres, parce qu'ils avaient dénoncé, on avait retrouvé ces objets volés. Vous voyez un peu. Moi, la ministre qui dit qu'elle est là pour sécuriser la population, franchement... Je vous dis, je suis très désolé de
La MINUSMA qui paye un lourd tribut justement avec plusieurs pertes en vies humaines.
Oui, la MINUSMA je m'incline devant la mémoire de ces soldats disparus parce qu'ils sont quand même sous le drapeau, ils servent les Nations Unies. Mais il faut qu'on sache que la MINUSMA n'a jamais perdu de soldats dans les combats. La MINUSMA perd les soldats généralement quand ils se déplacent d'un point A à un point B, et les terroristes qui sont informés de leur déplacement posent des mines ou des attaques. Ça l'armée malienne a subi aussi les conséquences.
Alors on a parlé du fameux chapitre 7 hein, que les Maliens ont voulu. Aujourd'hui on évolue avec ce chapitre 7 qui est un mandat. On est dans le chapitre 7, mais est-ce que ce chapitre 7 est plus offensif?
On attend qu'il soit conclu
pour autant.
Justement, il y a trois mois sur vos antennes, je le disais, j'étais en débat avec Serge Daniel, je le disais, le chapitre 7, il a été voté, mais maintenant on attend qu'il soit concrétisé sur le terrain. On nous a dit qu'il faut plus de moyens, et moi j'ai dit qu'aujourd'hui, sur le terrain, ce que je sais, ce que je vois sur le terrain, la MINUSMA a assez de moyens pour lutter contre le terrorisme si la volonté y est. Parce que vous avez aujourd'hui au sein de la MINUSMA les Allemands qui sont hyper équipés, vous avez les Hollandais qui sont hyper équipés, avant même eux, les équipements qui sont partis sur le terrain, moi je les ai vus, je vois comment ils sont équipés.
Merci Paul Ben. Brema Touré, dites-moi un dernier mot, est-ce que c'est une fatalité finalement qu'on n'arrive pas à sécuriser nos populations de part et d'autre de la frontière nigérienne d'un côté, au Mali de l'autre côté?
Pas du tout, c'est une question de volonté tout simplement, entre États, entre communautés, de collaborer ensemble. Mais pour ce qui concerne la force internationale, je crains que la MINUSMA ne soit pas victime de son propre mandat.
Merci beaucoup. Murtala Mohamed, un tout dernier mot. Est-ce que c'est une fatalité que nos États n'arrivent pas finalement à sécuriser nos populations de part et d'autre?
Non, loin de là, il y a des moyens qui peuvent être mis en œuvre entre les deux États pour pouvoir aboutir à ces résultats. Mais si tant que la volonté au niveau plus haut sommet n'est pas manifestée, on aura du mal et les populations continueront à subir les affres de ces groupes terroristes.
Merci beaucoup. Ceci met donc un terme à notre émission d'aujourd'hui. Ils ont été avec nous. Merci, monsieur. Il s'agit de Brema Touré, le professeur en sociologie à l'université de Bamako, Murtala Mohamadou, journaliste nigérien du journal La Griffe plus précisément, Paul Ben, journaliste malien, correspondant de plusieurs médias allemands. Nous nous excusons. Cheikh Amadou Diouara, journaliste indépendant, et Maître Adraman Touré, analyste et avocat, n'ont pas pu être présents dans ce studio faute de calendrier. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Arand Diallo, mise en onde par Petting Diarra, et Mamadou Diouara était à la régie vidéo. Merci, à demain pour une autre émission.
Le grand dialogue.
Siki Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Halo Demandé.
Chenne Berry, Siki Kafoba.